RFI, grand reportage.
Si l'entreprise d'État socialiste existe, alors est-ce que l'entreprise privée socialiste peut exister? Pourquoi pas? Une entreprise dans laquelle chacun gagne en fonction de ce qu'il apporte et avec un bénéfice pour tous.
À Cuba, on peut désormais parler business. Le secteur privé se développe et l'économie se privatise. Pour les Cubains, travailler dans le secteur privé, c'est l'assurance d'un meilleur niveau de vie. Mais encore faut-il jongler avec les barrières administratives de l'économie étatique. Cuba, entreprendre en pays socialiste, c'est un grand reportage de Domitille Piron.
Ce client est exigeant et il veut de la musique. Quand je lui rase la tête, plaisante le barbier Juan Carlos Cervantes. Son salon de coiffure pour hommes, ce sont 3 mètres carrés dans l'entrée de sa maison, fermée par des portes coulissantes en plastique et un vieux fauteuil de coiffeur en cuir bleu. Sur l'avenue passante de San Lázaro à La Havane, un poteau de barbier tournant indique son salon. Mais la plupart des clients connaissent déjà l'adresse de Juan Carlos, qui a commencé son activité il y a plus de 20 ans.
Avant, je travaillais pour l'État. Je n'avais pas d'autre choix parce qu'avant, ce n'était pas autorisé, ça n'était pas légal. Et quand ils ont légalisé, j'ai préféré cette option plutôt que de travailler pour l'État.
Dans les années 90, la profonde crise provoquée par le départ des soviétiques force l'économie cubaine à s'ouvrir et se moderniser. En 1993, Fidel Castro autorise alors dans certains secteurs d'activité le travail à son compte. À Cuba, on parle de cuenta propista, pour ne pas dire entrepreneur du secteur privé.
À l'époque, l'État avait besoin d'entrée de capital. Moi, avant, par exemple, je recevais un salaire de l'État qui était minime et ne me suffisait pas. Mais je recevais de l'argent de l'État. Alors que maintenant, j'apporte de l'argent à l'État. Il ne me donne plus rien. Donc tout le bénéfice est pour l'État.
Si l'État y gagne, Juan Carlos Cervantes également, puisque son revenu est aujourd'hui bien plus élevé. La première motivation des entrepreneurs cubains, selon une étude de l'Université de La Havane, est effectivement l'argent, puis de meilleurs horaires de travail. Mais pour être entrepreneur, il faut d'abord obtenir une licence à choisir parmi 178 activités autorisées à être exercées de manière indépendante. Des activités toutes bien spécifiques, acheteurs et vendeurs de livres d'occasion, porteurs d'eau, nettoyeurs de bougies de voiture ou encore agents de télécommunications comme Caridad Garcia. Depuis son canapé, elle revend par la petite trappe dans une tôle en fer qui ferme sa maison les cartes de l'entreprise publique des télécommunications Etexa qui servent à recharger les téléphones portables ou accéder à Internet.
C'est une opportunité qu'ils nous donnent pour permettre aux personnes comme moi de travailler un peu. Parce qu'Etexa pourrait très bien le faire, ils ont de nombreux points de vente. Mais il y a une demande de la population et moi, je reste ouverte jusqu'à 22h30. Quand Etexa est fermée, moi je suis là. Ils ne nous payent pas pour faire cela, alors il faut vendre beaucoup de cartes pour gagner un peu d'argent.
Offrir un service complémentaire au service de l'État, c'est effectivement l'idée de ce secteur privé cubain, du moins l'idée que s'en fait le gouvernement. Fréquemment, le président Miguel Díaz-Canel rappelle cette vision.
Nous reconnaissons comme le principal acteur économique de notre société le secteur d'État et en complément de cette économie étatique, le secteur privé. Nous ne nions pas l'existence du secteur privé, mais il n'est qu'un complément.
Nous voici à Arte Corte, dans la vieille Havane. Des jeunes hommes et femmes apprennent ici gratuitement la coiffure. Ce projet communautaire a été créé par Gilberto Valladares, que tout le monde appelle ici Papito. Ce coiffeur et entrepreneur du secteur privé a ouvert en 1999 son propre salon, puis un musée de la coiffure, puis une école gratuite dans une alliance publique-privée. Pour lui, opposer le secteur privé au secteur d'État n'a pas vraiment de sens.
Le secteur privé ne peut pas être vu. Comme on dit parfois, c'est un mal nécessaire. Il est désormais un secteur qui s'est ouvert pour rester et pour apporter à la société cubaine. Mais ce nouveau secteur, c'est aussi le moment historique pour qu'il s'engage dans la société.
Ici, au Callejón de los Peluqueros, la ruelle des coiffeurs, il y a 20 ans, Papito était le seul entrepreneur. Aujourd'hui, 23 cuentas propistas artistas sont installés dans cette rue propre et très dynamique où de belles plantes ornent les maisons et commerces et des peintures décorent les murs.
La rue, c'est un bon exemple. Il y a 20 ans, cette rue était la plus moche de la Havane et il n'y avait qu'un seul commerce, mon salon de coiffure avec deux employés et l'école pour la partie sociale. L'idée, et c'est ce qui s'est passé, c'était de générer un bénéfice économique et en même temps un bénéfice social pour la communauté. Et je parviens aujourd'hui à prouver aux personnes qui ne pensent qu'à l'argent qu'investir dans le social est un bénéfice et qu'ils y gagneront plus.
Et le public est très réceptif aussi à ce genre d'initiative. Comme chaque matin, les étudiants pratiquent sur des clients qui viennent se faire couper les cheveux gratuitement comme Alexander.
Et la journaliste, moi en tant que client, je peux vous dire que le service est excellent. Je viens ici une fois par mois et je suis très reconnaissant parce que ici je suis bien mieux traité que chez un barbier de l'État.
Le sens du service, voilà encore une chose qui a permis de redévelopper le secteur privé à Cuba et de nombreux clients et cuenta propista en font le constat. À deux pas de Arte Corte, Osmani Hernández Rosales vit dans la Casa Vitrales qu'il a transformée en hôtel.
Je crois que moi j'ai du succès parce que je me concentre sur le service rendu aux clients. Mais le fait est que le Cubain ne reçoit pas un bon service, donc il ne sait pas le rendre.
Osmani loue des chambres dans sa maison. C'est l'une des trois activités les plus importantes parmi les cuenta propista après la restauration et le transport de passagers. Plus de 40 000 Cubains louent leur maison ou une chambre, on les appelle les casa particular, à destination principalement du tourisme étranger. Osmani Hernández Rosales s'est installé il y a 15 ans dans cet appartement au deuxième étage de la vieille Havane. Après de longs et difficiles travaux et avec l'aide de son compagnon étranger, il a commencé sa location de chambre d'hôte.
Cela nous a pris des années, nous avons fait beaucoup de sacrifices et eu beaucoup de prises de tête. Mais nous avons réussi et 5 ans après, nous avons pu acheter en dessous, qui était un appartement divisé en 3 familles, et il a fallu se relancer dans des travaux. Cela fait 12 ans que je suis là et je n'arrête pas.
Jusqu'à l'été 2019, l'hôtel particulier d'Osmani était presque toujours plein. Puis les sanctions nord-américaines se durcissent, les voyages à Cuba deviennent plus compliqués pour les touristes en provenance des États-Unis. Donald Trump fait interdire les bateaux de croisière sur l'île, puis les vols directs, excepté vers la Havane. Résultat, en 2019, Cuba enregistre une baisse de 9% des visiteurs.
Pour moi, cela représente une baisse de 50% de mes ventes.
Lui, c'est Rochi, José Luis Aguiles, le patron du bar-restaurant Chacon 162. En 2011, Raúl Castro impulse une série de réformes économiques, parmi lesquelles l'augmentation du nombre d'activités qui peuvent s'exercer de manière privée. Voyant cette ouverture économique, l'universitaire branché à la barbe bien taillée décide de se lancer et ouvre ce bar-restaurant dont la décoration nous renvoie étrangement chez le voisin nord-américain. Il accroche même au-dessus du bar une Harley Davidson. L'activité marche bien et durant les années de présidence Obama, c'est une véritable lune de miel que connaissent les entrepreneurs avec les touristes américains. José Luis Aguilar.
J'avais des accords avec des tour opérateurs américains pour les croisières. À chaque bateau, j'avais au moins une réservation pour le déjeuner. Quand j'ai commencé, il y avait un resto là-bas, deux ici, et maintenant j'ai calculé sur 1 km², il y a plus de 100 restaurants. Donc oui, il y a beaucoup de concurrence.
De la concurrence, mais moins de clients. C'est ce que constate aussi difficilement Siulen Lunar, vendeuse de souvenirs qui a installé son échoppe dans le couloir étroit d'une maison de la vieille Havane. Quand on lui demande de quelle manière le durcissement des sanctions américaines par l'administration de Donald Trump affecte son commerce, elle répond
« Gravemente, al punto que te puedo decir... »
Gravement, gravement, à tel point que je peux vous dire que je me casse en deux. Et je sais qu'avec le peu de fonds que j'ai, je ne survivrai pas à une prochaine baisse du tourisme.
Hola.
Hola.
Do you have clothes for baby?
J'ai passé toute la journée ici pour vendre une robe de petite fille. Et j'ai déjà passé 5, 6, 7 jours sans rien vendre, alors que je dois continuer à payer l'impôt.
Cuba vit une crise économique complexe et la baisse des revenus liés au tourisme et aux missions médicales à l'étranger complique la situation. Pour en sortir, il faut débloquer les forces productives, n'a de cesse de répéter le gouvernement cubain. Mais qu'est-ce que cela signifie, s'interrogent les 617 000 cuenta propistas qui se voient quotidiennement imposer de nouvelles restrictions et directives alors qu'ils représentent désormais plus de 13% de la force de travail à Cuba. C'est le cas des chauffeurs de taxis collectifs, l'un des rares transports à Cuba. Ces taxis, ce sont les vieilles voitures américaines, comme celle de Lázaro Yacel.
Cette voiture, c'est une Chevrolet de 1941 avec un moteur Perkins, un moteur anglais. Il n'y a rien d'origine, seulement la carrosserie et rien que la carrosserie.
Mais la voiture semble tenir la route. Quand il n'est pas empêtré dans une file d'attente à la pompe, comme c'est le cas à ce moment-là, Lázaro peut transporter 5 passagers dans son taxi collectif pour 10 pesos en monnaie nationale la course, soit 40 centimes de dollars.
C'est le prix imposé par l'État, c'est comme ça, 10 pesos.
10 pesos, monnaie nationale.
Oui, c'est comme ça, et si tu dépasses ce prix, tu sais ce qui se passe.
Non, je ne sais pas.
Bah, ils t'allument.
Lázaro rit, mais un peu jaune quand même. En février dernier, l'État a imposé une nouvelle limite du prix de la course des taxis collectifs. Certains chauffeurs le comprennent car la population a peu de moyens, mais d'autres qui s'étaient même mis en grève, un acte rarissime à Cuba, s'en plaignent. Le prix de la course diminue, mais ce n'est pas le cas du prix de l'essence ni des pièces de voiture. Raidel Bosch roule dans une Chevrolet bleue des années 50 dont la fenêtre d'angle tient avec un bâton.
La voiture, c'est celle de mon père. L'entretien de la voiture nous coûte très cher, ce qui fait que c'est compliqué parce que les prix de la course sont très bas. Mais dès qu'on a une réparation à faire, ça nous coûte très cher.
Pour 10 pesos donc, revenons dans cette vieille américaine dans le cœur historique de la capitale. Nous voici à Centro Habana, quartier populaire où les maisons à arcades et volutes laissent imaginer une belle époque bien révolue. Derrière une grande fenêtre fermée par une grille, la maison de Juliana, dont le hall d'entrée sert de magasin. Par la fenêtre, on vient y acheter un petit sandwich, un soda, un chewing-gum. Il y a 2 ans à peine, on pouvait aussi y acheter des vêtements, des fleurs, des articles religieux pour les rites de la Santeria. Mais Juliana Hernández Jiménez n'est plus autorisée à avoir un magasin si varié. Pour chaque type de produit, il faut une licence. Et désormais, dans le secteur de la vente, une seule licence est autorisée par personne.
Donc, j'ai gardé la licence qui a le plus de demandes parmi la population, qui est celle de la cafétéria. Mais mes clients savent ce que je vendais avant et ils viennent et me demandent par exemple si j'ai de l'eau de vie ou du miel. Je ne les expose pas, mais je pourrais les vendre illégalement. Donc, je n'ai pas perdu au change puisque j'ai arrêté de payer 4 licences à l'État.
Les cuenta propistas ont connu en 2019 une véritable inflation législative. Officiellement, le gouvernement entend ainsi lutter contre le marché noir et la fraude fiscale, mais beaucoup comprennent ces lois restrictives comme une manière d'éviter que certains ne s'enrichissent. Chaque mois, un cuenta propista doit payer le tarif de sa licence, un pourcentage pour la sécurité sociale, ainsi qu'une taxe de 10% de ses revenus. Alors Juliana, comme la majorité des cuenta propistas, jongle et s'arrange.
Chacun fait ce qu'il veut parce qu'ici, il n'y a pas d'inspecteur qui vient vérifier quotidiennement les ventes de chaque cuenta propista. Donc ce mois-ci, si aucun inspecteur ne vient, je vais à la banque et je paye seulement le tarif de ma licence. Et les revenus, je ne les déclare pas et je garde tout. Et
la vente complète est meilleure.
Selon Juliana, qui n'a pas sa langue dans sa poche, chaque nouvelle loi va à l'encontre du développement du secteur privé. Elle ne voit pas sa situation s'améliorer et observe chaque matin ses voisins ouvrir eux aussi leur petite boutique. Pourtant, eux n'ont pas de licence, comme ce vendeur de rue. Francisco Ramirez vend des pâtisseries. Sur son vélo, il a attaché une caisse vitrée pour y déposer les gâteaux qu'il vend à la criée. Chaque jour, il parcourt 7 à 8 km dans la Havane, ce qui lui permet de plutôt bien gagner sa vie, mais illégalement. Francisco n'a pas de licence car, originaire d'Holguín, il n'a pas le droit de vivre et de travailler dans la capitale. Mais Francisco préfère cumuler les illégalités plutôt que de servir l'État.
Je n'ai jamais travaillé pour l'État. L'État paye trop peu et cet argent ne me suffirait pas. Les salaires de l'État sont trop faibles, la vie est chère. J'ai un fils, une femme, une famille et ce salaire d'État ne suffirait pas.
Les bas salaires et les emplois peu productifs des entreprises d'État, voilà ce qui pousse de plus en plus de jeunes vers le secteur privé. Parmi les cuenta propista, 33% sont des jeunes. Lorena Facio, comme tous les Cubains, a eu l'opportunité d'étudier gratuitement à l'université. Mais après son diplôme de juriste obtenu et un an en poste au tribunal de La Havane, elle a préféré ouvrir une maison d'hôtes pour touristes.
Franchement, je ne vivais pas avec le salaire de l'État. J'adore le droit et j'espère un jour pouvoir exercer de nouveau mon métier. Et je ferai tout pour. Mais je gagne beaucoup mieux ma vie en travaillant à mon compte.
Comme la majorité des cuenta propista, la jeune femme a dû improviser pour commencer son activité, car il n'existe pas de formation d'entrepreneur à Cuba. Et comme la majorité des cuenta propista, elle a aussi dû faire appel à l'investissement familial de son père en Italie. Pour commencer, beaucoup comptent sur les remessas, l'argent envoyé de l'extérieur par la diaspora. Lorena Facio.
C'est difficile d'entreprendre parce qu'il y a des limites, comme les prêts à la banque par exemple. Si tu n'as pas d'aide de l'étranger, l'aide d'un proche, c'est très difficile. Il n'y a pas de culture de crédit à Cuba.
Mais entreprendre n'est pas impossible. Lorena a étudié le droit avec Oscar qui lui aussi a abandonné la justice pour le secteur privé. Il a ouvert dans le quartier résidentiel de La Lissa une petite cafétéria en juin 2019 en rassemblant les économies de toute la famille.
80% des aménagements, on les a faits, mon frère et moi, avec nos propres mains. La soudure, le carrelage, les étagères, la déco, la hotte, on a tout fait tout seul.
Faute d'argent comme tout Cubain, Oscar et son frère ont fait appel à la débrouille. Ils sont désormais rentables avec leur petit restaurant de riz frit et viande quand il y en a. Car trouver les produits de base est effectivement le plus grand défi d'Oscar Martinez. Chaque matin, avant de se mettre au fourneau, c'est la course pour faire les courses. Car à Cuba, les cuenta propistas sont obligés de s'approvisionner au détail ou dans les magasins d'État.
C'est un défi de trouver des produits et pouvoir proposer tous les jours la même carte. C'est très difficile. Il y a eu une période où il n'y avait plus d'huile. Et le riz frit se fait avec de l'huile. Donc si je n'en ai pas, je ne peux pas cuisiner. Et pour le riz, il est vendu dans les bodegas. Mais il y a une limite. Je ne peux en acheter que 10 livres. Donc chaque jour, je dois y aller et acheter 10 livres. Le lendemain, encore 10 livres. Ou mon frère, il va aussi et achète 10 livres. Ou ma maman, il va et achète encore 10 livres.
Le marché de gros est sans aucun doute la première revendication des cuenta propista qui bataillent pour acheter leurs matières premières. Si la réforme de la Constitution de 2019 reconnaît officiellement la propriété privée, le chemin semble encore semé d'embûches pour les travailleurs à leur compte. Ils ne peuvent toujours pas importer de marchandises de l'étranger et revendiquent une loi des entreprises.
Je m'appelle Sandra Ledicia Aldama. Je suis la directrice du projet Debrujas, qui est une micro-entreprise de fabrication de savon artisanal enrichi d'ingrédients naturels.
Vous dites micro-entreprise, mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une entreprise en tant que telle officiellement ou est-ce que vous êtes plusieurs cuenta propista?
On dit micro-entreprise parce qu'en interne, on fonctionne comme ça. Nous sommes 8 à travailler, c'est-à-dire que j'ai 7 employés, mais nous ne sommes pas reconnus comme entreprise puisque nous n'avons pas de personnalité juridique.
Parmi les cuenta propista, 25% sont effectivement employés par d'autres cuenta propista. Une forme d'organisation qui ne convient pas à de nombreux entrepreneurs. Sandra a le sentiment que les choses changent bien que lentement et pour elle, il serait grand temps de faciliter le travail des entrepreneurs cubains qui contribuent eux aussi, selon elle, au développement du pays.
Si l'entreprise d'État socialiste existe, alors est-ce que l'entreprise privée socialiste peut exister? Pourquoi pas? Une entreprise dans laquelle chacun gagne en fonction de ce qu'il apporte et avec un bénéfice pour tous. En tout cas, moi, je pense comme ça et je n'ai pas envie que mon entreprise devienne un empire pour que je sois millionnaire et que mes salariés soient exploités avec un salaire fixe. Non, ça n'a jamais été mon idée. Et s'il y a plus de travail, tout le monde doit travailler plus et tout le monde doit bénéficier de ce travail.
Tout le monde doit bénéficier de ce travail.
Rentabilité, bénéfices, investissements, l'économie des cuenta propista cubains se base sur des concepts classiques de l'économie capitaliste, longtemps mal perçus par l'État, mais la perception des entrepreneurs change et les Cubains de la nouvelle génération n'y sont pas pour rien. Les nouveaux entrepreneurs attachent de l'importance à la responsabilité sociale de leur entreprise et à leur impact sur leur communauté.
Cuba, entreprendre en pays socialiste, un grand reportage de Domitille Piron, réalisation Eva Piedel.
les clubs.